Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mounde.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 4 septembre 2014. Bienvenue au Grand Dialogue spécial en direct depuis l'hôtel El Horaci d'Alger où se tiennent les pourparlers intermaliens entamés depuis le 1er septembre. Ici à Alger, trois thèmes comme d'habitude dans cette émission ou trois questions si vous voulez. La méthode de négociation est-elle la cause du blocage des travaux ici à Alger? Quel rôle devra jouer la société civile pour le reste du processus de paix entamé ici à Alger? À quand l'accord de paix sera la dernière question de ce débat? Pour débattre donc de ces différentes questions, nous avons comme invité Maître Harouna Touré de la CMFPR et Ataï Ag Mohamed du MNLA. Merci à vous de nous suivre. Je suis Famoussa Sidibé. Je suis assisté à la réalisation par Ousmane Diadje Touré. Tout d'abord, comme je l'ai dit, pour l'ambiance qui prévaut ici sur place à Alger, je peux vous dire qu'elle est très très bonne. Je pense qu'il faut être à Alger pour voir que la confiance en la réussite des discussions évoquées par les différents acteurs, cette confiance, on la lit sur les visages à la fois des partenaires du Mali, mais aussi sur ceux des représentants des groupes armés. La bonne humeur l'a donc emporté depuis que nous sommes ici à Alger, même si certains regards se croisent durement et là on sent de la fragilité dans la confiance mutuelle. Alors, ma toute première question, la méthode de négociation est-elle la cause du blocage ici des travaux à Alger, Maître Harouna Touré de la CMFPR?
Il n'a pas faire de blocage. Pourquoi? Parce que ce qui avait été convenu, c'est de permettre à chaque partie prenante d'intervenir librement selon son organisation interne. Nous avons été appelés ce matin devant la médiation internationale et la médiation algérienne. Il y avait la partie gouvernementale, d'accord, les mouvements armés en tant qu'observateurs. Et la parole a été donnée à la société civile malienne dans toute sa composante, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les sociétés civiles proches des groupes armés. Et chacune des parties prenantes s'exprimait librement dans un temps de parole déterminé d'avance. Les interventions étaient franches, sincères, parfois pleines d'émotions, mais globalement fraternel et amical.
Alors, Ataï Ag Mohamed, vous représentez le MNLA à ce débat. Vous ne voulez pas parler de blocage. Maître Harouna non plus ne veut pas parler de blocage. Mais pour les journalistes, les observateurs que nous sommes, nous avons constaté une certaine lenteur dans les négociations. Quelle en est la cause?
D'abord, permettez-moi de dire bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent à l'instant en direct d'Alger. Je rejoins quelque part à mon frère Harouna, qui l'a si bien dit. Je pense qu'il est tôt pour parler de blocage. Il y a juste lieu d'être clair sur certains points et dispositions. Donc, c'est vrai qu'il y a un retard, c'est regrettable. Cependant, je pense que les choses commencent à se mettre en ordre. Et ce matin, nous avions, même si la société civile n'était pas prévue dans la feuille de route maintenant, quand même, elle a été demandée à quelques 3 jours de début de la deuxième phase de négociation, mais nous l'avons acceptée, elle est arrivée, elle n'est pas dans la feuille de route maintenant. Je n'ai pas dit qu'elle ne doit pas y être, c'est très bien qu'elle y soit, d'ailleurs elle a le droit d'y être, mais ce matin elle a commencé déjà avant les parties belligérantes, je dis bien. Elle a dit ce qui était franchement, et je pense que déjà tout le monde est satisfait, en tout cas nous du côté de l'Azawad, nous sommes satisfaits, et ça déjà est rassurant, et rassuré aussi par ce que les uns et les autres ont dit. Parce qu'ils sont presque dans la logique et dans les projets que nous avons toujours défendus.
Alors, Maître Harouna, nous avons vu la méthode, elle est souvent contestée dans les pourparlers, dans les négociations de paix. Qui définit les méthodes dans ce cas malien?
La méthodologie du dialogue, c'est bon, parfois des principes généraux de conduite des négociations qui sont connus parfaitement, je pense, de la partie algérienne, mais également des autres parties composantes de la médiation internationale de façon générale. Cette méthode a été appliquée, c'est-à-dire que les parties ont été appelées et ont été entendues contradictoirement. Il peut se faire que certaines parties ne soient pas encore totalement représentées. Ok, on peut le comprendre, mais comme c'est un processus, nous venons de commencer ce matin, nous pensons que les gens auront l'occasion de se rattraper, d'amener les personnes qu'il faut pour poser les vrais problèmes et de chercher ensemble des solutions.
Alors, nous l'avons vu, nous l'avons constaté dans les deux modules, en fait, les deux travaux, les deux commissions qui ont travaillé aujourd'hui avec l'audition de la société civile, des différentes sociétés civiles, que les membres du MNLA disent toujours qu'il y a ce retard des membres du reste de la délégation. Est-ce que finalement tout le monde est là? Tous les membres du MNLA sont là.
Il n'y a pas que les membres du MNLA qui disent. Il faut les préciser. Aujourd'hui, il n'y a pas que les MNLA. Il y a une coordination qui s'appelle la coordination MNLA, MAA et SCIA, une grande coordination de trois mouvements belligérants de l'État malien, qui ont des éléments qui ne sont pas arrivés, mais qui seront bientôt là, normalement d'ici demain, pour la majorité d'ailleurs. Et c'est déjà un pas. Et par rapport à la méthode, j'aimerais aussi revenir un peu là-dessus. C'est vrai que nous avions eu, en quelque sorte, des avis à donner, parce qu'en tant que parti, même si les consultations, M. Harouna disait que les partis ont été consultés, c'est bien possible. Mais nous avions des propositions qui nous semblent cohérentes et qui sont aussi cohérentes pour n'importe quel observateur. C'est que, par exemple, c'est vrai que déjà, la médiation a un peu presque le monopole de cette décision, parce que c'est elle qui trace sa stratégie de négociation. Mais pour nous, il est cohérent, il est mieux que plus cohérent de commencer par les politico-institutionnels, de définir les chapeaux, les modèles de gouvernance et ce qui doit advenir de la solution politique avant de se lancer dans la préparation de ce qui s'appellera les programmes de développement social, économique, la sécurité, la défense et tout ça. Pour nous, c'est ça que la cohérence en est là. Mais si les experts qui sont là, qui appuient la médiation internationale, sont sûrs et parviennent à nous convaincre par des arguments et aussi clair sur vraiment l'approche, peut-être qu'elle passera. Mais cependant, nous avions le droit et nous avions profité de ce droit sans pourtant dire que c'est un blocage, parce que c'est normal qu'on y arrive. On a eu du mal pendant deux ans presque à en arriver là. Si on en est là et qu'il y a deux ou trois jours de tractation pour avancer de façon plus rassurante, ce n'est pas un blocage. C'est prouve que nous sommes vraiment décidés à ne pas faire des erreurs. Nous sommes décidés à laisser de très bonnes bases de confiance et de mesures pour aboutir à un véritable accord de paix.
Alors, Maître Harouna Touré, vous représentez la CMFPR à ce débat. Pensez-vous qu'avec l'arrivée de la société civile dans les pourparlers, on a mis la charrue avant les bœufs?
Non, je ne pense pas du tout qu'on ait mis la charrue avant les bœufs. Pourquoi? La société civile, c'est d'abord elle que nous, les mouvements armés, nous sommes censés représenter. Théoriquement, nous avons tous pris les armes pour défendre cette société civile.
Tout à fait.
Que la parole soit accordée à la société civile n'est pas un privilège, c'est un droit.
Oui.
D'accord? Et que la société civile, elle vienne ici, elle-même, à travers ses représentants et représentantes, que dise ce qu'elle a sur le cœur, comment elle entrevoit la gouvernance future du Nord, les questions institutionnelles, les questions économiques, les questions de sécurité, comment se réconcilier, je pense que c'est au contraire un droit qui leur a été réservé. Donc, leur présence se justifie pleinement dans ce processus. Voilà.
Alors, Ataï Ag Mohamed, vous êtes du MNLA. Vous vous plaignez sur nos antennes que vous avez été informé seulement deux jours de l'implication de la société civile dans ces pourparlers. Est-ce que la société civile que vous souhaitez, qui représente votre mouvement, soit à Alger, a pu finalement faire le déplacement?
D'abord, je voudrais que les uns et les autres comprennent que nous ne sommes pas contre la présence de la société civile. Et nous ne disons pas non plus qu'elle n'a pas droit à assister, à donner son mot, car mon frère l'a dit, c'est pour elle que nous faisons tout ça. Donc c'est son droit à bien. Mais cependant, nous avions tracé une feuille de route qui a été paraffée par la partie malienne, par la communauté internationale, qui n'a pas dit que nous partirons en inclusif maintenant. Sur la feuille de route, il faut que les peuples maliens sachent que c'est écrit « feuille de route de négociation de paix ». Négociation. Et il n'y a pas la décision pour parler inclusif pour l'instant. Donc pour nous, ce qui doit être fait, c'est que toutes les parties, ainsi que les témoins, restent sur ce qui sont convenus dans la feuille de route, qui dit qu'il faut ouvrir les négociations entre les parties belligérantes. Il faut travailler les thèmes entre les parties. C'est après, c'est même prévu dans la feuille de route, il y a la phase de consultation. Elle viendra dans cette phase de consultation. Donc pour nous, c'est durant cette phase de consultation que les deux parties doivent aller rendre compte au niveau de la base, s'acquérir des avis des uns et des autres. Mais si aujourd'hui, la médiation ainsi que la communauté internationale a décidé de rapprocher la société civile de l'aide de négociation, c'est un pas, c'est bien. Mais nous disons que ce n'est qu'un échantillon. Il n'y a que, je crois, n'est-ce pas, 18 par partie. 18 personnes par partie, ça ne suffit pas comme société civile de tout le territoire. Donc c'est un échantillon qui est là, c'est bien. L'échantillon s'est prononcé aujourd'hui, même si la médiation nous a rassurés que ce sont des opinions qu'elle va écouter, ce ne sont pas des engagements. Vous faites ferme par rapport à ce qui doit advenir. Mais ce sont des opinions qui seront recensées, écoutées par les observateurs, par ceux qui viendront et veilleront sur les droits de tous. Mmh. C'est bien, aujourd'hui elle a parlé. Et d'ailleurs, pour rassurer les uns aux autres, elle n'a rien dit qui puisse être contraire à ce que nous défendons.
Alors, une des conditions que vous évoquiez quand nous vous avons interviewé sur nos antennes toujours, c'était la libération des prisonniers. Est-ce que cela est effectif?
Pas du tout. De notre côté, c'est effectif.
Vous avez libéré
les prisonniers? Depuis la dernière fois, nous ne détenons aucune personne. Et je dis bien, nos prisonniers ont toujours été des militaires. Nous n'avions jamais détenu des prisonniers civils, en tout cas pour la coordination MNLA, MAA, Hasseya. Et nous les avons tous libérés. Et aucun n'est mort en détention. L'État malien n'a aucune preuve de cela. Personne n'est mort en détention. Personne n'a été exécuté en détention. Personne n'a été rendu avec des blessures graves. Donc, nous l'avons fait. L'engagement de l'État malien était que de son côté aussi, aucune personne n'y reste. Je précise aussi que l'État malien ne détient pas des combattants. Aucun combattant.
Il ne
détient pas du tout. Ni du MA, ni du HCIA. Les personnes que nous avons sur nos listes sont des citoyens arrêtés par-ci par-là dans l'amalgame lors de l'intervention française qui sont dans des prisons. Nous avions vu récemment l'État malien dire que nous lui avons demandé la libération de certaines personnes soupçonnées d'appartenir au groupe djihadiste terroriste lors de l'occupation. Nous l'avons démenti sur votre antenne. Nous n'avions pas demandé la libération de ces personnes-là. Nous avons demandé la libération d'innocents qui sont encore en prison.
Donc,
pas du tout.
N'est pas du MNLA.
En tout cas,
vous n'avez pas demandé sa libération.
On ne l'a pas demandé. On a vu qu'ils l'ont libéré. Je sais qu'ils ont essayé de mettre entre actifs. Nous rassurons que ce n'est pas le cas.
Alors, le studio me fait signe que c'est l'heure de la pause. Nous allons observer quelques secondes de pause, juste 2 secondes de pause avant de reprendre ce débat.
Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani.
Alors, la pause, elle est finie. Nous sommes ici de retour à Alger. Pour parler d'Alger, nous sommes donc dans ce débat, la deuxième partie donc de ce débat, de ce spécial Alger pour parler d'Alger entre le gouvernement malien et les groupes armés depuis l'hôtel El Ouraci d'Alger. Cette deuxième partie donc sera consacrée à l'entrée en matière de la société civile dans ces négociations. Nous allons donc voir avec nos deux invités, Maître Harouna Touré de la CMFPR et Ataï Ag Mohamed du MNLA, quel rôle devra jouer la société civile donc pour le reste du processus. Maître Harouna Touré de la CMFPR, quel rôle devra jouer la CMFPR dans le reste du processus de paix?
La société civile, vous avez dit?
Oui, la société civile.
Ah oui. Pas la CMFPR.
Non, le rôle de la société civile.
Oui, je pense qu'on a déjà évoqué partiellement la réponse à cette question. La société civile est dans son rôle, en ce sens que elle est concernée directement par la malgouvernance que tout le monde a reconnue. Hein, les autorités maliennes ont reconnu qu'il y a une malgouvernance au nord. Les mouvements ont justifié la prise des armes en partie par la malgouvernance au nord. Les sociétés civiles ailleurs, dans le nord, à Bamako, ici même, se plaignaient de cette malgouvernance. Donc, le rôle de la société civile, c'est de poser les problèmes avec acuité, avec courage, et d'apporter des solutions. Les solutions telles qu'elles les ressentent elles-mêmes, les solutions dont elles ont besoin. Donc, elles ont parlé également des questions de sécurité. Comment elles voient la sécurité? et comment elles se sentent abandonnées à chaque occasion, chaque fois qu'il y a des troubles, qu'il y a des coups de feu, la société civile se sent esselée. Et donc c'est presque en remplacement des forces régulières de l'État que la société civile se voit organisée en mouvement armé, en mouvement parfois d'autodéfense. Donc la société civile, son rôle, c'est de dire avec franchise comment elle voit l'avenir de toutes les populations du Nord dans toutes leurs composantes, selon leurs besoins, selon leur culture, selon leur solidarité habituelle, et comme elles ont l'habitude de vivre ensemble. Voilà le rôle qu'elles doivent jouer, la société civile.
D'accord. Alors, je rappelle juste que nous avons invité le gouvernement malien à ce débat, le ministre en personne, le ministre Abdoulaye Diop des Affaires étrangères, n'a pas vraiment... Nous leur avons adressé cette invitation, mais malheureusement, nous n'avons pas eu de suite favorable à cette invitation. Alors, Ataï Ag Mohamed, vous êtes le représentant du MNLA à ce débat. Le rôle de la société civile, je reviens encore une fois sur ce rôle-là. Pensez-vous qu'elle puisse avoir quel rôle dans le reste du processus ?
Elle est incontournable. Elle est incontournable du moment où, comme l'a dit M. Haruna, c'est elle qui souffre directement. Ensuite, c'est elle aussi qui pourra nous aider pour ce qui est de la réconciliation. Cette prochaine étape qui sera très difficile après tout ce qui s'est passé. De deux côtés, il s'est passé des choses qui, sans la société civile, sans son implication dans cette phase de réconciliation, il serait difficile de rapprocher les esprits. Donc d'ores et déjà, c'est bien qu'elle soit au fin et assiste. Mais aussi, il y aura une phase où elle sera la plus active. C'est elle qui pourra parler aux populations. Donc pour nous, elle est incontournable quelque part. Ensuite, il y a l'autre aspect par rapport à la justice. C'est elle qui sait de quelle justice elle voudra. Donc pour nous, la société civile, elle est la bienvenue. Mais pour nous, il y a aussi un autre élément. C'est que maintenant, je le rappelle, à qui voudrait l'entendre, que nous sommes en négociation de paix entre belligérants. Nous, de la coordination des mouvements belligérants de l'Azawad, qui sont les MNLA, le MAA et les HCIA, sommes en conflit contre l'État du Mali. Et ce conflit ne date pas de 2012. Nous sommes la continuité des différentes rébellions cycliques qui sont déroulées dans cette zone du pays depuis 1963. Donc, nous n'avons pas pris les armes contre la société civile, encore moins contre les populations civiles. Mais nous avions toujours visé les symboles de l'État du Mali, son administration, son armée. Et les populations sont toujours restées sur place, sauf celles qui ont eu parfois peur et qui, en tout cas, qui ont la raison aussi de quitter des fois. Cependant, il n'y a pas. Les conflits opposent et c'est un conflit politique. C'est pourquoi nous insistons là-dessus sur la méthode. Aujourd'hui, celui qui pense qu'il va limiter ou recadrer la résolution de ces conflits sur seulement les aspects sécuritaires et économiques ira à côté. Comme en 92. Il faut travailler l'aspect politique d'abord, qui est essentiel. Tant que l'aspect politique de cette question n'est pas traité, car c'est de cet aspect politique que dépendra la sécurité, le développement et aussi les autres, la question des droits de l'homme. Il faut traiter cet aspect politique.
Donc, alors, oui, merci Ataï. Oui, Maître Haruna, de la CMFP. Allez-y.
C'est un petit redressement. J'ai entendu Mohamed dire avec beaucoup de conviction que leurs mouvements sont les moins belligérants opposés à l'État du Mali. Soit, ok. Donc c'est une rébellion. Si ce n'est qu'une rébellion, c'est-à-dire qui oppose des mouvements armés à l'État du Mali, ok, la société civile ne devrait pas être concernée.
Non, c'est pas ce que j'ai dit, Monsieur Haruna.
Laissez Monsieur Haruna aller au fond de ses idées.
Que quand j'ai dit concernée, la société civile ne devait pas subir, elle n'est pas visée, mais elle a été visée, elle a subi, ok, elle a subi des exactions, elle a subi des crimes innommables. Et la preuve, vous avez des réfugiés dans tous les pays frontaliers. Absolument. Vous avez eu des populations déplacées du fait de la guerre, du fait de l'affrontement entre, d'une part, l'État du Mali et le mouvement armé, mais également parfois entre les mouvements armés et certaines sociétés civiles. Nous connaissons des cas de personnes civiles victimes, aussi bien des groupes armés que parfois de l'État. Et ce sont des civils. Donc, nous, ce qu'on se pose toujours comme question, mais chaque fois qu'on nous parle de rébellion, mais une rébellion dans son essence, c'est une révolte contre des institutions. C'est une révolte contre un État organisé. Mais quand la révolte débouche sur des attaques contre les populations civiles, le pillage de, comment on appelle, de leurs boutiques, le pillage de leur économie, de leurs ressources, les attaques visées contre des personnes physiques, mais il ne s'agit plus de rébellion. C'est ce qui amène, c'est ce qui nous a amené, nous, à vouloir prendre les armes. Si le MLLA ne s'était contenté que de s'attaquer à l'armée malienne, à la gendarmerie ou aux institutions, on n'aurait pas existé. Le MA, excusez-moi d'ajouter, loyaliste n'aurait pas existé. La CMFP n'aurait pas existé parce que nous sommes créés uniquement pour assurer la défense de ces populations que nous considérons comme victimes d'une guerre qui ne les concerne pas.
Alors, maître, juste avant de vous donner la parole à Ataï, une précision avec maître avant que je n'oublie. Maître, aujourd'hui, l'implication de la société civile a provoqué la création de 4 commissions. La commission politico-institutionnelle où la médiation a entendu une partie de cette délégation et la commission développement social. Il y a eu aussi la commission réconciliation et défense.
Ouais.
Alors, pourquoi la société civile, impliquer la société civile dans ces différents panels?
Mais je disais tantôt que la société civile est la première concernée, en fait. On ne peut pas parler de paix, de développement, de sécurité, de bonne gouvernance sans la société civile. Qui sommes-nous? Nous sommes issus de cette société civile autant que nous sommes, nous, les 6 mouvements, comme on appelle les représentatifs du Nord. Nous représentons des sociétés civiles. Si vous prenez le MNLA... Et dans sa composition, ils représentent une société civile. Nous, la CMFR, on représente une société civile. Le MA représente une société civile. C'est la réalité. Donc, on est lié directement dans nos faits et gestes à l'existence et au comportement de notre société civile. Si notre société civile se plaint, on se plaint. Si notre société civile est attaquée, on la défend. On est dans notre rôle.
Alors, Ataï Ag Mohamed, vous êtes du MNLA, vous vouliez réagir par rapport à.
C'est ça. J'aimerais remercier M. Haruna pour l'avancée qu'il a eue entre 2012 et maintenant dans ce discours. Parce qu'il y a quelque temps, d'ailleurs, toutes les personnes comme lui ont toujours nié qu'il nous ait une société civile. Nous, en tout cas, le mouvement MNLA, par exemple. Ils ont toujours nié qu'on ait une base de soulèvement qui s'appellerait la société civile. Mais aujourd'hui, il y a une avancée à cela. Donc, c'est déjà un pas à s'allier. Ensuite, nous, quand je dis bien que la société civile doit être impliquée, c'est pour dire aussi qu'elle est directement la victime de ce qui se passe. C'est vrai, je ne l'ai pas nié. Je n'ai pas dit ici, dans ce micro, qu'elle ne doit pas être impliquée, ni qu'elle ne soit touchée par la crise. Mais je précise que nous prenons les armes, nous tenons des revendications contre l'État central de Bamako. Et la majeure de nos... La plus grande partie de nos affrontements nous ont opposés à l'armée malienne. Je ne me rappelle pas d'affrontement qui est opposé, en tout cas sauf si la dernière fois vers Tabankort où des groupes sont organisés pour se substituer à l'armée malienne sans pourtant pouvoir réussir ce qu'ils ont essayé. Tous les affrontements, ce sont des affrontements qui ont visé des camps militaires de l'État malien. On l'a vu à Kidal. L'armée nous a attaqués, mais est-ce qu'il y a eu un seul civil touché à Kidal? Alors que tout le monde, personne n'ignore la force militaire qui a été déployée par l'État malien pour prendre la ville de Kidal. Mais je vous rassure qu'aucun civil n'est tombé ni pendant la bataille de Kidal, encore moins après. Il y a 78 militaires maliens qui sont tombés.
Les fonctionnaires?
Fonctionnaires maliens, là aussi on l'a expliqué. C'est vrai qu'il y a eu cette... D'habitude, ça ne nous surprend pas, cette propagande qui nous accuse d'exécution.
Mais quand vous dites qu'il n'y a pas eu de civils, les fonctionnaires sont bien des civils.
Ils n'ont pas été tués sommairement. C'est des administrateurs de l'État qui sont au sein de l'administration du gouvernorat et qui ont été conviés par l'État au moment où il y avait des combats. Ils ont été victimes d'échanges de tirs et il n'y a eu aucune exécution. Parmi eux, il y a eu des prisonniers. Et ces prisonniers sont autant civils que militaires. Et parmi ces prisonniers, il y a des blessés qui ont été retrouvés au gouvernorat, qu'on a remis au CICR et à l'aménagement. Il n'y a aucune preuve d'exécution sommaire.
Alors, maître, dans ces explications et dans ce cafouillage qu'il y a eu à Kidal lors de la visite du Premier ministre, on se demande où est la loi dans tout ça.
Non, d'abord, moi, je n'étais pas à Kidal. Je ne sais pas si Ataï était au gouvernorat.
J'y étais.
Il était présent au gouvernorat le jour
pas
où,
au gouvernorat, j'y étais.
Voilà, le jour de l'attaque, le jour où nos, comme on appelle, nos administrateurs ont été tués. S'il était là-bas, il devait se poser la question sur son rôle. Je ne sais pas quel rôle il a joué, mais il y a eu quand même des morts.
J'y étais parce qu'il y avait toute la, tout,
oui,
il y avait une rencontre. J'y étais bien sûr.
Vous êtes témoin, vous pourrez être cité, de moins comme, cité devant un tribunal comme témoin, puisque
tout
vous
fait,
dites que vous
tout
y
fait,
étiez.
Tout à fait.
C'est important pour nous de
très
savoir
bien,
déjà
oui.
que vous étiez
déjà,
témoin.
J'y étais.
Bon, nous, ce que nous avons appris, des sources bien informées et formellement des seules personnes qui ont échappé à ce massacre, c'est que il y a eu, comme on appelle, une sorte d'exécution sommaire de certaines personnes. Encore une fois, et là, c'est l'avocat qui parle, je n'en ai pas la preuve. Il n'y a que des présomptions. Le moment viendra où, avec la commission internationale qui va être mise en place, avec les institutions qui vont être créées, une enquête réelle va être faite sur l'ensemble de ces crimes et délits, d'ailleurs qui ont pu être commis par quelques groupes que ce soit. Que ce soit du côté de l'État, du côté des mouvements armés ou du côté des civils. J'ai dit que je n'étais pas à Kidal. Okay? Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu des exécutions. D'accord. Je le dis à partir d'événements qui se sont passés et pour lesquels des informations précises ont été données avec des noms, des lieux d'exécution, des lieux de comment on appelle, de flagellation, d'imputation, ainsi de suite, qui ont suivi...
À Kidal, il n'y a pas eu ça.
Non, à Kidal, moi je peux vous dire, à Kidal, les jeunes qui ont été... Les jeunes
c'est
boulangers,
c'est très grave que Maître Touré, en tant qu'avocat ici,
mais oui.
à partir des présomptions, confirme et réitère qu'il y a eu d'exécution.
Il y a toujours eu cette présomption d'innocence.
Il a confirmé. C'est très grave.
Laissez-maître terminer.
Je vous dis que c'est nous qui avons demandé la commission d'enquête en premier. Et c'est aujourd'hui que nous sommes laissés à exiger.
Je peux vous interrompre.
Laissez-maître terminer, s'il vous plaît. Allez-y, maître.
Laissez-moi parler. Non, j'ai fait la part des choses. J'ai dit que je n'étais pas à Kidal, je n'étais pas au gouvernorat.
Mais ne confirmez pas.
En revanche, il a dit qu'il était au gouvernorat.
J'y étais.
Et j'ai dit qu'il peut être cité. J'ai dit qu'il peut être cité comme
témoin. Malheureusement, je ne suis pas technicien pour vous couper le micro.
Il pourrait être cité demain comme témoin parce qu'il affirme déjà avoir été
sur les lieux. Oui, j'ai le rapport.
D'accord, vous avez le rapport, mais votre présence même peut vous amener à répondre à des questions. Non, c'est que moi je dis, par rapport aux exécutions sommaires du gouvernement, je n'étais pas. En revanche, ce qui s'est passé à Kidal, par rapport à certaines parties de la population de Kidal, on sait que. Il y a eu des attaques ciblées sur certaines personnes, des commerçants, d'accord, des ouvriers, okay, qui ont été attaqués, molestés, certains ont été tués et les corps ont été ramenés à Gao pour être enterrés dans leur famille. J'en suis conscient. Et pendant l'occupation de la ville de Gao, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mmh. C'est peut-être pas bon parce que maintenant on est en train de chercher la paix.
Non, parce
il y a
que,
eu des exécutions.
Non, attention, c'est aussi grave parce que maintenant, on est en train, alors que M. Touré est en train d'insinuer des faits qui n'ont pas existé.
Donc,
je demande ces faits.
De,
non,
ce,
attendez,
de ce pas,
je demande
de
rapidement
que
ces faits
à l'entame de cette émission,
et qu'il n'y a pas eu de civils tués à Kidal. C'est archi-faux.
Nous avons évoqué la bonne humeur ici à Alger. Nous avons évoqué la bonne humeur ici à Alger.
Encore une fois,
et je pense que nous sommes, tout le monde est sur la bonne voie. Vous-même, les auditeurs ne sont pas dans le studio pour savoir ce qui se passe, mais vous venez de vous tenir la main, donc ça équivaut à une confiance en cette paix que nous recherchons. De ce pas, nous allons à la troisième partie donc, de ce débat qui parle justement de la probabilité qu'il puisse y avoir un accord ici à Alger avant que les délégations ne rentrent à Bamako.
C'est plus qu'une probabilité.
Alors, maître,
c'est une
justement,
chance.
Justement
c'est
sur
une
cette
chance.
Question.
Je pense
maître
Aruna, forcément, je pense à un accord. L'accord peut ne pas être un accord définitif. Okay? Il peut ne pas être un accord, comme on appelle, qui aurait embrassé tous les problèmes et apporté toutes les solutions que nous espérons. Mais je pense qu'un grand pas sera franchi ici à Alger. Vraiment un grand pas. Sur les quatre thèmes, il y a eu une sorte de préparation de chaque partie. La partie gouvernementale s'est préparée. Les mouvements aussi ont eu le temps de faire leur réflexion sur les quatre thèmes et ne manqueront pas de faire des propositions concrètes sur chacun des thèmes. Et je pense déjà, ça nous permettra de déboucher sur un avenir, en tout cas, qu'on peut espérer maîtriser. Voilà ce que je peux dire.
Merci maître. Je rappelle que vous êtes représentant de la CMFPR ici à ce débat. Alors Ataï, vous avez Ataï Ag Mohamed, vous êtes du MNLA, vous avez la parole pour réagir par rapport pour répondre à cette question. Peut-il y avoir un accord ici à Alger avant que les délégations ne rentrent?
Je pense que oui. Même comme il l'a dit, je pense que oui, parce que déjà c'est un pas aujourd'hui. Nous avançons là-dessus. Cependant, ça dépendra de beaucoup d'autres facteurs qu'il faut que chacune des parties prenne en compte. Il faut que l'on dise à tous les citoyens, de tous bords, la vérité. La vérité, parce que elle va finir, le peuple finira par savoir la vérité. Combien de choses ont été dites et qui sont aujourd'hui avérées fausses parce que le temps l'a permis. Son Excellence Ibrahim Barke Keïta, il y a quelques mois, disait à Dakar qu'il ne sera pas sur la même table que nous. Mais la vérité lui a montré le chemin.
Mais il n'est pas sur la table avec vous, attention.
L'État malien est là.
Il n'est pas là.
L'État malien est là. Non, je viens. L'État malien, c'est lui. Il est le chef suprême des forces armées.
Il est aussi,
Il est aussi le premier magistrat de l'État.
Absolument.
Le gouvernement, c'est lui. Donc il est là.
Le gouvernement, c'est pas lui.
Non, le gouvernement, il en a quand même la direction, le mandat de diriger le pays pour 5 ans. J'en viens. Donc,
allez-y.
Alors, pour nous, aujourd'hui, il est important que chaque parti contrôle ses mots. Parce que c'est le peuple qui écoute à l'instant sur cette station-là. Il n'est pas bien que l'on dise des choses ou que l'on affirme des choses qui font. Au contraire, aujourd'hui, nous, en tant que groupe politique ou armé, parce qu'on n'est pas que armé, hein, on est aussi politique, nous avions fait preuve de beaucoup de courage et de beaucoup de respect des droits humains par rapport à des institutions d'État. Il faut le reconnaître. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'adhésion et de soutien. Nous avons de plus en plus de mouvements qui se créent aujourd'hui, qui défendent presque la même chose. Parce que ce moment sonné, M. Haruna est là aujourd'hui, il ne conteste pas que, quelque part, il y a une défiance de l'État. Même s'il est né pour justifier une guerre.
Aujourd'hui, on parle de l'avenir.
C'est ça, de l'avenir. Mm-hmm. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce que nous avons mené ici a permis de révéler au peuple malien et à tous les habitants de ce territoire qu'il y avait un grand dysfonctionnement qu'il faut régler.
Absolument. Ça, c'est,
donc,
c'est
nous y sommes aujourd'hui. C'est un démarrage. C'est un pas. Mais il faut que l'on y travaille sérieusement. Il faut que aussi l'État, les partis, même lorsqu'on confie son destin de négociation à d'autres parties tierces, il faut que chacun veille à ce que sa souveraineté soit respectée dans ce qu'il fait.
Alors, Maître Haruna Touré, vous représentez la CMFPR. Nous avons vu avant cette date de Alger, du 1er septembre ici, de la rencontre de la relance des pourparlers à Alger, la création du groupe Gatia. Est-ce que vous ne pensez pas que la multiplication des groupes sur le terrain et les rapports de force ne compromettent pas les pourparlers ici à Alger?
Bon, je ne pense pas qu'on puisse parler de multiplication des mouvements. Les mouvements naissent selon les besoins, d'accord? Selon les circonstances et selon les lieux. Gatia n'aurait pas pu exister si des circonstances de fait, de guerre, d'attaque, n'avaient pas eu lieu dans la bande de Tabankor, de Tankit et autres, où des populations Imgad avaient été prises à partie, et à Diabok. Si les Imgad ont entendu s'organiser pour créer un groupe armé, c'est uniquement dans le seul dessein d'apporter la sécurité et la paix à leur population, qui se trouve être privée de cette sécurité par le fait que l'armée malienne n'est pas dans cette zone. C'est ce qui explique et justifie la présence de Gatia en tant que mouvement. C'est un mouvement qui a adhéré à notre plateforme, d'accord, à la plateforme CMFPR, MAA et CPA. Et c'est également un mouvement que nous avons accepté comme étant membre et partie prenante de notre plateforme.
Alors, sur le terrain, il y a un rapport de force entre Gatia et le MNLA.
Pas du tout.
Est-ce que, je le dis, cette multiplication, cette création de groupes favorise les négociations, les pourparlers ici à Alger?
Il n'y a pas de force Gatia. Encore moins de force MAA qui puisse tenir tête au MNLA, encore moins à la coordination.
Mais il y a eu des affrontements.
Oui, bien sûr.
La création
contre
de Gatia.
Contre les Moujaou, à Tabankort.
Est-ce que la création de ces...
Je vous donne la vidéo juste après.
Est-ce que la...
J'en viens. Laisse-moi terminer.
Mm-hmm. Allez-y.
Il n'y a pas... Je ne ferai pas de commentaires par rapport à Gatia. Ni ne dip pour savoir que Gatia, c'est une fabrication du général de l'armée régulière, Alhaji Gamou, qui est un général de l'armée régulière qui a créé Gatia. Et c'est une milice ethnique qui s'est revendiquée ethnique à Bamako. Chose qui est en premier lieu condamnée par la loi fondamentale de l'État. Donc, elle s'est déclarée ethnique déjà, avec des armes, pour dire qu'elle défend quoi? Pour les Maliens, l'État malien n'est pas dupe. La communauté internationale n'est pas dupe non plus. Elle sait que Gatia, militairement, n'existe pas. Gatia, c'est quoi? Ce sont les milices aujourd'hui qui composent l'armée malienne, quelque part, qui ont essayé.
Est-ce que vous avez la preuve que l'armée malienne participe à cette.
Elle participe, elle ne peut même pas participer. Elle est autant, la même force que Guetta. Elle n'existe pas l'armée malienne. Autant que Guetta. Pour nous, l'armée malienne, Guetta, c'est la même chose. Ils ne pourront pas nous tenir tête militairement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes les premiers à dire les armes ne sont plus la solution. Allons à la négociation. Donc pour nous, Guetta, d'abord par son nom, prouve que ce n'est pas un mouvement qui a pris une connotation comme ethnique, c'est très dangereux dans un pays. Ils ne sont pas les premiers à le condamner. Aujourd'hui, il y a des Maliens, il y a des Touaregs.
Est-ce que cela favorise aujourd'hui la paix?
Bon, pour nous pensons que Guetta n'est même pas en mesure.
Vous dites que vous défendez une partie de la population. Guetta également estime.
Les MNLA, en tout cas, parce que vous parlez des MNLA. Le MNLA n'a jamais dit qu'il défend une population contre une autre. Nous défendons toute la population de l'Azawad sans distinction aucune. Mais, cependant, je ne nie pas qu'il y ait eu des cas isolés d'exaction. Même à Bamako, lorsqu'il y a eu des putsch, il y a eu des situations.
Restons
vraiment
au nord.
Non, j'en viens. Donc, il ne faut pas, voir tout, comparer tout à la référence de ce qui s'est passé chez nous. Quand il y a circulation d'armes, quand il y a une question de crise, il va toujours y avoir, malheureusement, des situations incontrôlables. Donc, des cas isolés ont existé, qui ont touché des populations, des individus, des communautés peut-être. Cependant, elle ne peut pas être mise à l'actif. En tout cas, des groupes qui ont pris des armes pour défendre des droits et qui l'ont revendiqué devant tout le monde.
D'accord. Alors, oui, maître Haruna Touré, de la CNDP.
Il faut qu'on apporte quelques vérités. Hein. Ce qu'on doit dire ici doit être conforme à la réalité. D'accord. Puisque nous connaissons très bien le terrain et nous savons ce qui s'y passe. Mm-hmm. Guetta, c'est un groupe armé Touareg. D'accord. Imgad est allié. Moi, je fais partie des alliés de Guetta. Les Imgad, les Sonrei, les Arabes et leurs alliés de façon générale, c'est-à-dire les alliés Touareg, Arabes et Sonrei, ont signé un 3 juillet 2014 à Gao un accord presque de défense de leur communauté. D'accord. Et Guetta est né dans ce sens. Et Guetta existe en tant que mouvement armé. Le MNLA peut dire ce qu'il a envie de dire. Il sait très bien que Guetta existe sur le terrain, qu'il est confronté à Guetta.
Pas du tout, jamais.
Qu'il a subi des pertes. Je ne vous ai pas interrompu, Mohamed.
Ouais,
je ne vous ai pas interrompu. Je vous ai laissé parler quand vous avez envie de parler. D'accord. Il ne va jamais reconnaître qu'ils ont subi des pertes énormes en face de Guetta, des Arabes, des Peuls, des Sonrei et autres. Mais tout cela, à mon avis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'il y ait des pertes, qu'il y ait des morts, qu'il y ait ceci, c'est regrettable pour tout le monde. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre fin à tout ça et d'essayer d'avancer. Pour que Guetta disparaisse, que SMFPR disparaisse, que MNLA disparaisse, que l'ACIA disparaisse, que l'AMA disparaisse et qu'on laisse la place à l'État, à la société civile et à la communauté internationale qui est venue nous aider à sortir de ce trou. Voilà ce qu'il faut envisager.
Alors, maître Attaï, juste avant de vous donner la parole.
Maître, juste, parce qu'il est très important de préciser un détail.
Juste deux mots.
C'est pour dire, c'est pourquoi je disais que dans la méthode, il faut définir les parties. Dans ces mots ici, on sent qu'il n'est pas belligérant de l'État malien. On sent que...
Je l'affirme, je ne suis pas belligérant.
Très bien, de l'État malien. Très bien. Oui. Donc nous sommes belligérants de l'État malien.
Je suis belligérant contre vous et Menela.
Merci.
Ça, je l'affirme, je le dis.
D'accord. Alors, nous allons passer à Attaï, nous sommes presque à la fin. Maître, nous sommes presque à la fin.
C'est pour dire que les Maliens ne doivent pas être surpris d'entendre que les négociations s'ouvriront entre les belligérants, l'État malien et les mouvements des
Et entre vous et nous.
Ceci est dit.
En ce moment, donc, il faut qu'il y ait une table entre vous et nous. Et comment on va régler le problème entre vous et nous?
Juste un dernier mot.
Ça se réglera après. Le problème, si on vient, nous sommes
à la fin.
Est-ce que ces négociations sont inclusives? Elles sont parfaitement inclusives à ce stade. Tous les mouvements sont là, indéniablement. La société civile a été appelée. L'autre partie, la partie gouvernementale également, a été appelée. Pour moi, c'est inclusif. Ensuite, il faut le dire, la société civile, la société politique et les sociétés professionnelles au Mali, toutes ont eu droit à la parole et se sont organisées pour apporter leur contribution à l'effort de paix que nous sommes en train de chercher à construire ici. Okay.
Alors, Attaï, les négociations sont-elles exclusives?
Bien sûr, parce que maintenant, tout le monde y est, c'est normal. Cependant, il faut respecter la feuille de route. On est en négociation. Et l'inclusivité aujourd'hui, ça viendra. C'est un début déjà. C'est bon qu'ils aient les yeux ouverts sur le démarrage. Cependant, pour nous, il est essentiel que les premiers belligérants qui sont l'État malien
et les mouvements de l'Azawad fassent d'abord et acceptent d'avancer vers la paix pour qu'ils puissent impliquer les autres acteurs. C'est ça, là, c'est ça, c'est ce qui peut garder.
Et quand est-ce que vous et nous, on va s'asseoir autour de la table?
Vous et nous, il n'y a pas de guerre.
Ah si,
il n'y a pas de guerre.
Vous nous attaquez à Tabankou, vous nous attaquez à Gao, vous nous attaquez à Kidal, vous nous
attaquez à Diri, à Tambouctou,
partout.
Vous
nous attaquez partout, vous remercie. Vous
n'existez pas. Nous sommes à la fin de ce débat. Merci à vous d'avoir participé à ce débat, Maître Harouna Touré de la CMFPR et Ataï Ago Mohamed d'avoir participé à ce débat. Je rappelle aux auditeurs que nous étions en direct depuis Alger, dans ce studio mobile depuis Alger, pour parler de l'éventualité d'une paix aujourd'hui pour le Mali. Alors, trois parties ont été évoquées dans ce débat. La méthode de négociation était-elle la cause du blocage des travaux? Vous avez été suffisamment édifié sur cette question. Quel est le rôle que devra jouer la société civile pour le reste du processus? Et à quand l'accord de paix entre le gouvernement malien et les groupes armés sur le terrain? Je suis Famoussa Sidibé, mais sachez que je suis assisté à la technique par un collège de techniciens à sa tête, Bekaï Sissé depuis Bamako, Peting Diara et Nouhoum Diré, sans oublier Ganyin Kanté et Salim Djouara. Tout ceci était coordonné par Bernard Conchon à la rédaction depuis Medinakura. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigika Foba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biro.
Halud Mouni.
Chenni Biri. Sikika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.